Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Bonsoir, vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Alors ce soir, je vais vous emmener au théâtre Le Pic pour la fête des mères. Fête des mères, voilà. Et ensuite, nous irons découvrir dans le Marais un petit musée. C'est, enfin, un musée incroyable, je dis un petit, non. C'est le musée Cognac. Musée Cognac G. Et puis ensuite nous retournerons au théâtre aussi, mais je vous en dis pas plus. Je reçois Adèle Rouanet. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous allons parler donc de Fête des Mères qui se joue actuellement au théâtre Le Pic à Montmartre dans le 18e. Alors, Adèle, je vais parler un peu de vous. Vous êtes une toute jeune metteuse en scène, comédienne. Vous êtes alors sur ce spectacle-là, Fête des Mères, qui est finalement votre première pièce collective. Ouais. Vous êtes co-auteur, co-metteur en scène, et vous interprétez le rôle de Louise. C'est une pièce truculente, une pure comédie contemporaine sur la famille et la figure maternelle. Alors, à travers 5 personnages, nous voyons un peu les vicissitudes, les différends d'une famille dysfonctionnelle qui mêle rancune, comédie entre frères et sœurs. Alors, ils se réunissent pour l'anniversaire de leur mère Violaine, mais qui est absente. Mais elle est au centre des préoccupations de chacun. Il y a Gabriel, l'aîné, Ziggy, le petit dernier de 25 ans, qui vit toujours chez sa mère. Il y a l'amoureux de Gabriel. Il y a une amie de la mère, Florence, qui a d'ailleurs un sacré penchant sur la bouteille. Ce qui ressort, je trouve, c'est la mise en scène et le grand sens comique, la finesse du texte. Adèle Rouanet, je le disais tout à l'heure, vous êtes une toute jeune metteur en scène. Vous avez déjà écrit 2 seules en scène. Hein. Mais là, c'est votre première pièce collective, Adèle?
Oui. J'ai écrit un spectacle de troupe, j'ai coécrit Fête des Mères parce que j'avais aussi envie de parler de la fratrie. Et j'ai demandé au metteur en scène Guillaume Vincent de m'aider à mettre et à rendre ça au plateau.
Oui, alors Guillaume Vincent, connu, influent hein, dans ouais. le milieu du théâtre, hein, metteur en scène pour l'Odéon, Théâtre du Nord. Il travaillait avec plein d'artistes de musique, d'artistes hein, comme Kerry James, Camélia Jordana. Oui. Donc ses conseils ont dû être très précieux pour vous.
Bah, c'était plus que des conseils, c'est vraiment il m'accompagne sur toutes les directions de mise en scène, de direction d'acteur, de scénographie, toutes ces choses que je ne connaissais pas. Et comme moi, j'admire beaucoup son travail et que je lui fais vraiment toute confiance, et pour l'esthétisme, et pour savoir raconter une histoire, évidemment, c'est extrêmement précieux de l'avoir à mes côtés pour ce premier projet.
Ouais. Ouais. Alors moi, ce qui m'a frappée dans le texte, beaucoup de jeux de mots. Hein, j'en parlais tout à l'heure.
Et
de,
ah oui, ça c'est.
Est-ce que c'est un peu votre dada?
Oui, ça pour le coup, j'avoue que j'ai du mal à me passer des jeux de mots, enfin à ne pas en faire. Donc, je les ai un peu limités dans la pièce, mais c'est vrai que j'aime bien jouer avec la langue. Enfin, il y a plein de manières différentes de jouer avec le langage, mais j'aime beaucoup passer par les jeux de mots aussi.
Oui, on sent qu'il y a beaucoup d'inventivité, de créativité dans le texte. Les cordonniers, les fils des cordonniers ne sont pas les mieux chaussés. Hein.
Hein. Et donc, oui, c'est ça. Bah, on a toute une scène sur de quiproquo un peu sur l'expression des cordonniers. Et j'avoue qu'elle est très jouissive à jouer, celle-ci, oui.
Ouais. Alors au niveau de la mise en scène, donc Guillaume Vincent vous a apporté son aide. Le décor est assez kitsch. Enfin, on est finalement on va fêter un anniversaire. Hein.
Alors. Oui, c'est ça. C'est vraiment une. Et en même temps, on va fêter un anniversaire et c'est un peu un lendemain de soirée aussi dans le décor parce qu'ils ont un peu fêté avant que les enfants arrivent. Donc il y a ce côté un peu fin de soirée alors que c'est le début du spectacle. Ça nous amusait de commencer comme ça.
Oui. Alors vous, oui, allez-y, pardon, je vous ai coupé.
Non, pardon, et puis après je veux dire pour le reste du décor, c'est vrai qu'on a voulu quelque chose d'un peu saturé avec des couleurs qui sont quand même très présentes et en même temps sans trop ajouter trop de choses. Donc on a voulu une moquette un peu écossaise et puis des lattes de couleurs dans le fond. Enfin, on a essayé de travailler comme ça sur les jeux de couleurs, oui.
Oui, les lattes d'ailleurs à la place du rideau, hein, du rideau de scène, du rideau à l'italienne, des lattes en gros plastique fluo. Et ouais. Ce qui donne, je trouve, tout de suite un aspect à votre décor. Alors, niveau mise en scène, vous jouez le rôle de Louise, qui est une des sœurs un peu en retrait, qui est d'ailleurs étonnée d'avoir été invitée à l'anniversaire de sa mère. Et vous êtes tout de suite en frontal avec nous, comme si vous nous présentiez. Déjà, on nous demande d'éteindre nos portables, ça fait partie de la pièce.
Oui, c'est ça. Ben, c'est drôle parce que cette idée, je l'avais eue en allant voir une pièce il y a un an et demi au Théâtre Le Pic. Et je me suis dit, tiens, ça serait drôle que l'ouvreur ou l'ouvreuse qui fait le message d'abord, de demander d'être dans le téléphone, en fait, tout d'un coup, il bifurque et il nous fasse entrer dans la pièce par ce biais-là. Donc, c'était une de mes idées pour commencer, qu'on a creusé avec mon co-auteur. Et moi, en plus, comme j'avais fait des seules en scène avant, j'aimais bien... Ça me plaisait, l'idée de commencer comme ça un spectacle de troupe aussi.
Oui, commencer alors que le public s'installe. Vous êtes là déjà assez rapidement, hein, sur le bord plateau. Oui. Et vous nous interpellez en nous demandant d'une manière très élégante d'ailleurs et raffinée d'éteindre nos portables. Est-ce que vous ne jouez pas aussi un peu le rôle de guide pour comprendre cette famille ?
Si, alors effectivement, il fallait que un des personnages, comme on a choisi des personnages à des moments, par exemple, je pense au personnage de Florence ou celui d'Arthur, qui sont des et même celui de Gabriel, en fait, qui sont des personnages très presque caricaturaux. Enfin, on voulait vraiment y aller avec des gros traits. Et puis alors, en plus, après, on va dans quelque chose de plus subtil. Hein. Mais je pense que c'était important que l'un des personnages aide aussi le public, tienne un peu la main du public pour entrer dans cette fratrie.
Oui, alors vous allez peut-être nous parler des différents personnages. Gabriel, qui est le fils
qui est
aîné.
Le frère aîné, oui, c'est ça, qui lui a une trentaine d'années à peine, qui travaille dans le consulting, qui adore la psychanalyse et qui, par-delà de ça, adore sa mère, ce qui peut expliquer pourquoi il adore la psychanalyse, et qui est forcément en opposition avec sa petite sœur Louise, qui pour le coup, elle, ne s'entend pas du tout bien avec sa mère. Et donc, Gabriel, pour la première fois, il vient accompagner lors de l'anniversaire de sa mère. Donc, il est en plus tendu qu'à la normale.
Oui, accompagné de son compagnon. Donc, il y a vous, hein, la petite sœur. Et il y a cette fameuse Florence. Alors,
oui.
Florence jouée par
Florence Janas.
Oui, voilà. Et qui a un rôle qui amène un peu de folie, hein, dans cette famille.
Ah oui, complètement. Bah alors, déjà, moi, c'est parce que j'ai écrit en pensant à Florence Janas, avec qui j'avais déjà travaillé, et je savais que je pouvais me permettre d'écrire énormément de choses, d'aller très très loin dans la folie du personnage, parce que je savais que Florence allait très bien le jouer et savoir comment à la fois qu'on la trouve folle, qu'on s'y attache, et en même temps qu'elle nous paraisse complètement mystérieuse, presque un peu comme à la fin, elle est un peu comme une fée, comme elle a un chapeau en plus de soirée, enfin d'anniversaire. Elle est presque mystique par moments aussi. Enfin, elle a plein d'aspects.
Oui, on se demande d'ailleurs si elle joue la folie. Je ne sais pas si c'est voulu.
Bah, c'est un peu, c'est une crête quoi. Elle est vraiment sur une crête et puis en plus comme elle aime bien, disons, l'alcool. Ça permet et au personnage et à la comédienne d'aller dans des endroits surprenants presque à chaque réplique, à chaque moment, quoi.
Oui. Et on se demande finalement où tout ce petit monde va. Est-ce qu'ils vont aller au conflit ou pas? Alors, on révèle pas tout, hein, bien sûr, spectateurs. Il faut quand même dire que la mère, finalement, on la voit pas.
Bah, oui, moi, ce que j'aimais, en fait, ce dont j'avais envie, c'était que les gens se représentent la mère, sans qu'ils la voient d'emblée forcément, et qu'ils se la représentent par bah, la manière dont ses enfants parlent d'elle, qui est d'une manière très différente selon chaque enfant. Et je trouve que c'était intéressant, ça, comme complexité et comme nuance pour se représenter quelqu'un.
Oui, alors on sent que cette mère a beaucoup de poids et que oui. ses enfants lui portent de l'affection, mais pas tous. Parce que Louise, par exemple, est assez dure envers elle, hein, dans ses propos.
Oui, elle est très dure. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est comme on ne connaît pas la mère, on ne sait pas si Louise est dure, si elle est injuste, ou si effectivement elle a été élevée différemment que ses deux frères, bah déjà forcément parce que c'est une femme et donc elle s'est construite. Alors certaines femmes se construisent en opposition à leur mère et d'autres pas du tout, mais elle, on s'imagine que c'était plus comme ça que ça s'est passé. Enfin, on sent que c'est très conflictuel, qu'il y a un vrai nœud. Et je trouvais ça intéressant, oui.
Oui, ça on le sent nettement. On sent les différentes relations finalement qu'elle a avec chaque enfant. Ça c'est incroyable. Hein. On a l'impression de voir la mère.
Hein. Ah bah tant mieux.
Ouais, finalement juste au travers de dialogues et de blagues et de rebondissements, on sent vraiment cette relation. Hein, je rappelle donc c'est Fête des Mères au théâtre Le Pic, une pièce jeune, tonitruante et en même temps sûre, qui nous révèle des choses sur cette famille. On est un peu dans l'univers de Lagarce, hein, pour le contexte. Hein. Ça me fait penser à une pièce de Lagarce d'ailleurs. Vous savez, celle dans laquelle le frère.
Juste la fin du monde.
Oui, c'est ça.
Oui, bah ça me fait très plaisir qu'on puisse comparer à l'univers de Lagarce que évidemment j'aime beaucoup, déjà en tant que comédienne. Mais moi, c'est vrai que je me suis dit en premier spectacle, il y avait quelque chose dont je devais parler, c'était la famille, mais plus précisément la fratrie. Alors après, le lien aussi avec Lagarce, c'est que mon personnage qui a été longtemps un peu mis à l'écart revient, mais c'est pas du tout le retour de l'enfant prodigue, parce que là, en l'occurrence, elle ne s'entend pas du tout bien avec sa mère. Mais ça crée un événement et ça... Au départ, ça peut vraiment faire exploser une famille et je pense que c'était intéressant de voir à quel point ça peut aussi les unir, de s'être pas vus depuis très longtemps et s'être quitté un peu fâché.
Oui, on est aussi proche parfois de différents, mais de l'univers du Splendide. Hein. Moi, je sais pas, je pense au film Jaoui Bakri, même Cuisine et Dépendance, un peu dans cette folie, mais beaucoup d'échanges quand même entre les membres de la famille.
Bah, oui, bien sûr. Après, c'était vraiment une inspiration. Enfin, disons que comme c'est la première fois que moi j'écrivais avec quelqu'un, on s'est dit avec mon co-auteur qu'il fallait qu'on ait un langage commun. Et donc, on a re-regardé, bah, notamment, par exemple, Cuisine et Dépendance, que je trouve vraiment très, très bien écrit, au-delà d'être aussi très bien joué. Et puis ensuite, on s'est attaché à vouloir écrire une pièce qui serait une comédie aussi. Alors là, c'est une tragicomédie parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas tout à fait non plus un boulevard, hein, parce qu'il y avait quand même des couches en plus qui étaient pas que comiques, mais on s'est vraiment attaché à vouloir essayer de faire quelque chose de drôle.
Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a l'ami là, le petit ami de Gabriel,
oui, Arthur,
qui a quand même des dialogues tonitruants avec Louise. Avec Florence aussi. Vous savez, à chaque fois, elle lui dit, mais toi, tu me flingues, c'est ça.
Bah, il joue un peu pour des raisons qu'on comprend en allant voir la pièce. Il joue un petit peu, complètement au débile, pour mettre mal à l'aise son amoureux. Et effectivement, ça donne, quand on choisit qu'un personnage a le droit de faire ça, ça vraiment, ça nous donne toute liberté au moment de l'écriture.
Ouais. Est-ce que vous auriez une réplique en tête comme ça? Je pense à celle sur le coiffeur. Vous savez, quand vous faites référence justement. Oh, vous dites les enfants des cordonniers sont pas forcément les mieux chaussés.
Et
vous donnez d'autres références. Alors,
il dit que ce serait comme un charcutier vegan, oui. Il n'arrive pas à trouver de parallèle qui lui parle, du coup.
Oui, c'est ça. Il y a le charcutier vegan, il y a le coiffeur chauve.
C'est ça, il y a Beethoven. Laure Manaudou qui mettrait des brassards.
Ouais, c'est ça. Il y a quand même plein de références.
Oui, oui, bah bien sûr. Après, effectivement, ça parle autant de références qu'on a nous entre avec les comédiens. Quand tu fais par exemple Michel Galabru dans Les Ch'tis pour me faire ses références à lui, qui sont ses références théâtre, puisque mon personnage est comédienne. Et puis après, évidemment, oui, bah il y a aussi Gilbert Montagnier. Et puis après, et Yves Duteil. Enfin, vraiment, c'est assez large, je pense, ouais. Comme spectre de référence.
Comment vous avez écrit le texte, donc Fête des Mères avec Vincent, pour tout ce qui est justement jeu de mots, c'est plutôt vous ou lui aussi?
Eh ben, on a un humour qui est très différent. Enfin, du coup, maintenant, on a un peu plus le même humour. Alors, moi, j'adore les jeux de mots et les répliques vraiment efficaces, je dirais. Et lui, il était très fort aussi pour la structure. Donc, je trouve qu'à deux, c'était un peu c'était vraiment notre force. La structure narrative et moi, un peu plus la typologie des personnages par endroit, oui.
Et pour la mise en scène avec Guillaume.
Pour Guillaume, pour le coup là, c'était vraiment. En fait, moi, mon personnage n'est pas dans la pièce pendant les 20 premières minutes, donc même comme chaque soir maintenant, c'est pratique parce que je peux regarder de la salle et pouvoir faire des retours ensuite. Et c'était pareil pendant la répétition. Et puis ensuite, évidemment, quand je suis au plateau, je suis très contente qu'il y ait un autre regard que le mien, celui de Guillaume Vincent, et qui du coup nous aide et nous aiguille, parce que il y avait vraiment une question de rythme à trouver, comme c'est du comique, et qu'on cherche, et pendant les répétitions, il nous manquait vraiment le sixième personnage qui était le public. Et à Avignon, du coup, on a compris qu'en fait, parfois, on jouait la pièce beaucoup trop rapidement, et que les temps, c'était vraiment important de les avoir.
Oui. Donc la pièce est encore, on va dire, en peut encore évoluer.
Chaque fois, on sent qu'on a, on s'habitue à ce qu'on à la salle. Chaque soir, on se régule.
Ouais. Oui, vous êtes vraiment une toute jeune créatrice de théâtre, hein, Adèle Roinet. On va entendre parler de vous. Hein. Oui, vous êtes sortie du cours Florent il y a quelques années. Hein.
Oui, j'ai fini la classe libre du cours Florent en 2022.
Oui.
Donc ça fait 3 ans. Exactement.
La musique a toute son importance hein, dans Fête des Mères, puisque Louise, la fille, interprète quelques chansons originales.
Oui, alors moi j'aime envie d'avoir un moment chanté. Et je trouvais ça. Et puis au moment où ça vient dans l'histoire, je trouvais ça joli et plus intéressant qu'à ce moment-là un dialogue, par exemple.
Oui. Et c'est vrai que ça amène vraiment quelque chose et c'est les moments sont bien choisis. Merci beaucoup Adèle Roinet.
Donc
Fête des Mères, c'est au théâtre Le Pic dans le 18e, du mercredi au vendredi à 21h.
Au samedi à 21h et dimanche à 17h.
Au samedi également, hein, très bien.
Voilà.
Et dimanche,
oui,
donc ce soir, il reste des places et pour samedi et pour dimanche. On va citer les comédiens.
Avec plaisir.
Alors
il y a Florence Janas.
Oui.
Il y a Aubin Hernandez, Adrien Rouillard, qui est en alternance avec Félix Pack, Cyril Metzger en alternance avec Johan Cuny et moi. Je pense Adèle Roinet, je pense que j'ai oublié personne
Adèle
de ce que vous pouvez
voir
en ce moment. Et après, il y en a une autre équipe qui va nous rejoindre avec Virginie Colmain, Manon Knezé et Grégoire Didelot.
Très bien. Et donc, je rappelle, c'est un spectacle coécrit par vous, Adèle Roinet, commis en scène d'ailleurs également, avec à la mise en scène Guillaume Vincent. Et c'est Fête des Mères au Théâtre Le Pic. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous.
On écoute Yes, I Know My Way.
Oh yes I know. My way. Mon homme faute est tu. Mon homme faute est tu. Tu vas la rita et reste à paix. Va du voir dans les soirées.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Eh bien, nous allons parler d'un musée niché au cœur du Marais, à côté du métro Saint-Paul, qui est pour moi, ce musée est pour moi une découverte, mais c'est vraiment un lieu à visiter ou à revisiter. Il s'agit du musée Cognac. J'ai. Et pour nous en parler, je reçois Saskia Ooms. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Madame Ooms, vous êtes responsable de la conservation au musée Cognac G à Paris. Vous êtes docteur en histoire de l'art. Je vais faire un petit rappel hein, pour nos auditeurs avant de vous laisser la parole. Le musée Cognac G, alors on assimile bien souvent Cognac G aux légendaires studios de télé hein, qui étaient rue Cognac G à Paris dans le 7e, mais finalement on connaît peu l'histoire d'Ernest Cognac et de sa femme Marie-Louise G. Ernest Cognac, né en 1839, était le fondateur des grands magasins de la Samaritaine. C'était un fin collectionneur d'art du 18e et après sa mort, un musée finalement reçut son nom et celui de sa femme, donc Cognac G. Alors bonsoir Madame Ooms, vous nous parlez un peu de ce musée. Quelles sont les particularités du musée Cognac G?
Alors la particularité, c'est avant tout l'histoire du goût pour le 18e siècle, parce que il faut savoir que c'est à la fin du 19e siècle que Ernest Cognac, proche de la soixantaine, est devenu riche, devient collectionneur. Et comme de nombreux amateurs de son époque, il apprécie avant tout l'art du 18e siècle, en particulier français, et considéré alors comme l'expression la plus aboutie du raffinement. Et pour faire ses acquisitions, il s'entoure de divers conseillers, antiquaires, historiens de l'art, et il réunit une collection remarquable. Il s'attache ainsi à rassembler des œuvres de Boucher, Greuze, Fragonard, des maîtres d'aujourd'hui moins connus comme Bouilly ou Lorenz, mais aussi des grands noms des arts décoratifs français.
Oui.
Alors, à la mort de sa femme en 1925, il décide de léguer ses collections à la ville de Paris. Et un an après sa propre disparition, en 1929, le musée Cognac G est inauguré boulevard des Capucines à Paris, près de l'Opéra, dans un immeuble attaché à son magasin appelé la Samaritaine de Luxe. En 1981, ce magasin cesse son activité et les immeubles l'hébergeant sont vendus. Le musée, un peu mitoyen, doit alors déménager. C'est l'hôtel Donon, un hôtel particulier menacé de ruines dans le quartier du Marais qui est choisi pour accueillir les collections. Et le musée y rouvre ses portes en 1990.
Ah oui, alors.
Il est surtout consacré donc au goût pour le 18e. Il s'attache aussi lors des expositions temporaires à explorer un artiste ou un mouvement important du siècle de la Lumière.
Ouais, cet hôtel particulier est magnifique, hein, on le disait tout à l'heure, l'hôtel Donon au cœur du Marais, il a été construit en 1575. Je crois que les boiseries, les cheminées, les planchers peut-être venaient de l'ancien musée.
Alors absolument, les boiseries ont été acquises par le couple Cognacq-Gé et c'est ça aussi qui en fait son charme, parce que récemment, quand on a réinstallé les collections permanentes pour le visiteur, on a vraiment l'impression de retrouver cet esprit du 18e siècle, et c'est un vrai ancrage du 18e, et c'est assez agréable, parce que il y a d'autres musées comme ça, hein, le musée Jacques Marandré, Nissem Camondo, mais c'est quand même assez rare à Paris de retrouver cette magnifique impression d'un period room, hein, de cette expression qu'on utilise pour installer justement ce décor complètement époustouflant, et qui retrouve tout à fait cette esthétique pour le 18e qui était aussi chère au couple des collectionneurs.
Oui, alors on parlait tout à l'heure de nombreuses œuvres que recèle ce musée, que ce soit du mobilier, des tableaux bien sûr, des petites figurines, des petites boîtes. Hein. On parlait des œuvres de Boucher, Fragonard, Greuze, Canaletto, Tiepolo. Je pense à ce fameux tableau marchande de mode, hein, de Boucher, qui est... Alors c'est pas une œuvre maîtresse, mais est-ce qu'il y a une œuvre on peut dire quelques œuvres phares, d'ailleurs, dans le musée.
Tout à fait. Il y en a plusieurs. C'est d'ailleurs très difficile de choisir. Mais pour moi, le retour de chasse de Diane et de Boucher est quand même assez incroyable. Il faut savoir que Boucher avait un immense talent. Il aurait pu devenir en Europe le rival d'un Tiepolo qui a fait une carrière extraordinaire en Europe. Mais il se contentait à être le favori de la marquise de Pompadour, hein, la favorite de Louis XV. D'ailleurs, on le nommait souvent le favori de la favorite. Et il fut par excellence le peintre de la femme, virtuose, à rendre avec délicatesse le palpitement des chairs et la grâce de sa attitude. Et on le voit dans le tableau d'ailleurs, Diane, déesse de la chasse, est entourée de sa nymphe, sa servante. Et pour se délasser, elle défait sa sandale et trempe son pied dans l'eau. Donc il y a une vraie sensibilité autour de ce tableau. Et elle est vraiment, cette Diane, elle est vraiment d'une délicatesse, d'une sensibilité, d'une esthétique incroyable. Et ce tableau est un des chefs-d'œuvre de notre musée. Alors, ce tableau a une histoire assez intéressante, parce que, en fait, il faut savoir que c'était un élément d'un décor, aujourd'hui démembré, d'un dessus de porte. Parce que il faut savoir que ça vient d'un château actuellement détruit dans le 19e siècle, et il y a trois autres peintures de cette façon qui faisaient partie du même décor, que aujourd'hui se retrouvent à Londres et à Los Angeles, à Londres dans la Wallace Collection et à Los Angeles dans la LACMA. Donc c'est quand même assez rare de pouvoir présenter cette pièce qui fait partie de ce décor assez incroyable et magnifique pour cette époque.
Oui, on parlait également des collections de miniatures, de boîtes, étuis, boîtes à phare, petits flacons, tabatières. Il y a notamment ce pistolet à parfum de Jean-François Baute, hein, qui date de 1800, mm-hmm. qui est quand même une curiosité aussi.
Ah oui, absolument. La collection du musée Cognacq-Gé est quand même une rareté extraordinaire, parce qu'avec plus que 240 objets, presque 260, le musée Cognacq-Gé conserve une des plus importantes collections de ces objets d'orfèvrerie qu'on appelle les objets de vertu. Alors, c'était aussi intéressant parce que l'histoire de l'origine de cette exposition est mal connue. Vertu était le nom d'un célèbre artisan anglais, mais il peut aussi s'agir d'une vision où vertueux, les protestants ayant émigré en Angleterre lors de la révocation de l'édit de Nantes. Et parmi ces protestants se trouvaient nombreux d'artisans, orfèvres, horlogers, miniaturistes. Et le XVIIIe siècle était quand même très connu pour toutes ces boîtes d'orfèvrerie qu'on décline par tous les usages, tabatière, poudrier, boîte à mouches, étui à cure-dents, nécessaire à écrire ou de toilette. Et ces formes qu'on leur donne sont parfois surprenantes. Vous l'avez dit, un pistolet pour se parfumer, une jambe, un dromadaire, une petite tête avec un masque, avec des yeux en brillant. C'était souvent des cadeaux. Et les plus beaux ont été commandés, bien sûr, et offerts par des souverains ou qui remerciaient ainsi leurs courtisans.
Oui.
Et la richesse de leurs montures, parfois ornées de diamants, je le disais tout à l'heure, correspondait tout à fait au rang du destinataire et à la valeur de la gratification. Et bien sûr, il y avait énormément d'orfèvres qui se sont spécialisés dans la fabrication de ces menus objets. Et avec plein de poinçons qu'on peut découvrir notamment sur les objets et qui attestent donc de la pureté de l'or et permettent de les identifier et de les dater. Donc, effectivement, la collection est très connue pour ça. Et d'ailleurs, une exposition Luxe de Poche a été organisée l'année dernière.
Où ça ? Excusez-moi,
tout
où
à fait
ça
c'est tous ces objets de richesse et les objets de faire.
L'exposition avait été organisée au musée Cognacq-Gé ?
Oui, tout à fait, c'était en 2024.
Ah oui. Il y a également cette collection de figurines de mécènes, c'est ça, hein, la porcelaine.
Oui.
Je pense à l'éléphant portant un pot pourri, par exemple.
Oui, alors, évidemment, mais la manufacture de mécènes est célèbre pour... c'était vraiment assez incroyable, parce que il faut savoir que à l'époque, il n'y en avait pas tellement. Alors, mécènes, c'était un réel... la manufacture, c'était donc près de l'Allemagne, en Allemagne à l'époque, hein, donc près d'Albertstock. Et il faut savoir que c'était géré par Kandler, Joachim Kandler, qui était vraiment un artiste hors pair et qui a fait en sorte que cette manufacture a eu un énorme succès. D'ailleurs, c'était aussi des objets qui était complètement collectionné en France, hein, et c'est eux qui donc ont pu fabriquer la porcelaine dure, hein, c'est-à-dire une argile particulière qu'on n'avait pas encore découverte en Europe, qui était indispensable, le kaolin. Et donc, en 1710 à Dresde, il y avait d'abord l'apothicaire et l'alchimiste allemand Johann Friedrich Böttcher qui avait le secret de la fabrication de la porcelaine dure. Et donc ensuite, la première manufacture de porcelaine européenne voit le jour à Meissen en Saxe en 1710. Et il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que la recette de la porcelaine dure soit enfin divulguée. Des manufactures s'ouvrent alors partout en Europe. En France, c'est en 1769, après la découverte de la première carrière de kaolin à Saint-Trix, près de Limoges, que la manufacture de Sèvres commercialise sa première porcelaine dure. Donc, c'est en effet, c'est assez intéressant parce que ça a montré qu'il y avait une vraie fascination pour tous ces objets, hein, pour ces objets de porcelaine qui sont d'une d'une richesse, d'une inventivité incroyable, et c'était très collectionné. Hein. Et d'ailleurs, on a eu la grande chance de pouvoir les exposer dans la nouvelle présentation des collections.
Oui, 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 je rappelle, hein, c'est donc au musée Cognac-Jay, la collection de notamment, hein, de figurines de mécènes, hein. Je rappelle pour nos auditeurs, hein, c'est un formidable musée sur l'art du 18e avec des peintures, des figurines, des objets, du mobilier. Voilà, c'est vraiment à découvrir. Merci beaucoup, Saskia Oumbs. Hein, je rappelle, vous êtes docteur en histoire de l'art, conservateur au musée Cognac-Jay. Merci. On rappelle peut-être l'adresse et les heures d'ouverture, hein, du musée.
Ah oui, tout à fait.
C'est au métro Saint-Paul, hein, c'est ça, vous êtes dans le 3e.
Oui, 8 rue Elsevier, dans le 3e, métro Saint-Paul. C'est le plus proche, vraiment.
Oui, et donc le musée est ouvert du mardi au dimanche. De 10h à 18h. Alors, je rappelle qu'il fait partie quand même des 12 ou 14 musées de la ville de Paris qui sont gratuits. C'est quand même formidable.
Oui, on a la chance de pouvoir montrer la collection permanente gracieusement. Ça fait partie de la richesse des musées de la ville de Paris.
Tout à fait. Merci, merci beaucoup Saskia Oumbs. C'est donc le musée Cognac-Jay dans le 3e arrondissement à Paris. Bonne soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup pour votre intérêt pour notre magnifique musée. Merci encore.
On écoute Howzat du groupe rock australiens The Charbet. On va les écouter. Et ensuite, je vais recevoir Luce Mouchel qui va nous parler de la pièce Faire semblant d'être moi. How's that? Merci.
IDFM Radio, 98 FM.
Eh bien, nous sommes toujours sur IDFM Radio. Bonsoir, chers auditeurs. Je me suis rendue au Théâtre La Flèche, rue de Charonne, à Paris, dans le 11e, pour voir la pièce « Faire semblant d'être moi » avec Luce Mouchel. Je sors du théâtre, je sors de la salle de spectacle et je suis en compagnie de la comédienne Luce Mouchel. Bonsoir.
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 Donc c'est une pièce sur la vie d'une... C'est sur une pièce sur l'enfance, avec des souvenirs très précis qui nous plongent dans nos propres souvenirs. Et on voit cette enfant, cette jeune fille évoluer au sein de sa famille en Normandie, et qui va devenir comédienne, la comédienne qu'on connaît, l'actrice, puisqu'on vous voit énormément à la télévision, oui. Dans toutes les séries, enfin bon, dans plusieurs séries, pardon, TF1, on vous a beaucoup vu au cinéma, oui. Sur les planches également. Alors vous interprétez le personnage principal, le seul personnage, puisque...
Oui, il y en a qu'un. Enfin, j'en interprète plusieurs,
oui, mais c'est, voilà. C'est un seul en scène. Vous avez écrit la pièce.
Oui, je l'ai écrit, et il y a même une suite qui est prévue, parce que là j'ai voulu écrire l'enfance, l'adolescence pour voilà, que ce soit un peu le terreau de la naissance d'une vocation, et puis ensuite il y aura une suite. J'ai envie de faire un peu tous les âges comme ça, je trouve que c'est intéressant.
Formidable. C'est votre deuxième pièce écrite?
C'est ma première.
C'est votre première?
Ouais, c'est la première fois que j'écris, enfin j'écris depuis longtemps, mais je veux dire que j'en ai fait, c'est la première fois que j'écris une pièce, et assez rapidement m'est venue l'évidence que je devais écrire ce que j'avais vécu, parce qu'il n'y a que ça que je connais le mieux et que je peux le plus partager.
Alors, à quelle occasion justement avez-vous écrit cette pièce, vu ce que je disais tout à l'heure, vous êtes sur beaucoup de tournages, oui. Notamment le rôle de Marianne Delcourt,
oui, Demain nous appartient.
Demain nous appartient. Vous avez joué également dans Le Bureau des légendes, oui. Enquête en famille, enfin bon, je ne vais pas tout citer. Comment vous est venue l'idée finalement d'écrire quelque chose de très intime sur vos souvenirs d'enfance?
Alors déjà, c'est vrai que c'est, on peut dire que c'est des souvenirs, mais ce qui est important, c'est que tout est au présent. C'est-à-dire qu'au début, c'est pas quelqu'un qui raconte il était une fois, j'étais là. C'est vraiment, c'est pas l'imparfait, c'est toujours du présent. À 5 ans, la petite fille, elle a 5 ans. À 10 ans, elle a 10 ans. Après, elle grandit. Ce qui m'intéressait, c'était d'abord, j'avais très envie de faire un seul en scène. J'avais jamais fait ça. Je voulais me confronter à cette forme théâtrale que j'avais jamais encore goûtée. Et puis, mon premier désir, c'était d'écrire sur la vieillesse de mes parents. Je trouve que c'était la maladie d'Alzheimer et tout ça, et puis j'arrivais pas, donc en fait j'ai tiré le fil et j'ai parlé de mes parents en partant de ma propre enfance, et c'était pour parler de la famille, voilà. Et puis après en fait des choses me sont venues assez naturellement, des souvenirs. Je savais pas que j'allais raconter ci ou ça, les souvenirs ils viennent, on sait pas trop, et la dramaturgie se fait presque à notre insu. Tout d'un coup j'ai parlé de cette photo que j'avais découverte, qui m'a petite et qui m'a familiarisé, qui m'a fait découvrir le mot mort pour la première fois, qui reste un mystère pendant tout très très longtemps. Et c'est en fait, je voulais raconter comment un petit traumatisme, qui n'est pas un gros traumatisme, mais pour les enfants des fois c'est une petite chose qui fait grand traumatisme, c'est pas forcément un gros truc, peut faire naître une vocation.
Et beaucoup de souvenirs très précis, hein. C'est oui. Là où je pense c'est votre talent. Vous parlez donc de cet univers de la famille en vacances, oui. ou à l'école, hein, tous ces souvenirs, oui. qui reviennent, ou même de nourriture, de tartes.
Oui, la nourriture est très importante, parce qu'elle aura d'ailleurs un rôle très très important dans la seconde partie, donc je voulais déjà poser un peu les jalons, mais ce que je voulais surtout, c'est un texte de sensation. C'est pas intellectuel, même s'il est écrit évidemment très écrit, mais je voulais vraiment partir de la sensation de l'enfant. Moi j'ai gardé mes sensations presque intactes, des sensations que j'ai eues aller à l'école, à la naissance de ma petite sœur. C'est comme si les sensations étaient restées presque indélébiles et intactes. Donc je voulais parler de ces sensations, et c'est un texte qui parle beaucoup de ce qu'on des sensations, la peau, le goût, l'angoisse même... qui prend aux tripes, tout
et
ça.
Et puis même, oui, c'est ça, de manière intellectuelle, votre premier baiser, par exemple, c'est très bien écrit.
Le premier baiser, oui.
Avec Denis.
Avec le piano.
Avec Denis Roger.
Oui, avec Denis Roger, oui, d'ailleurs, il existe toujours, je ne sais pas ce qu'on connaîtra, parce qu'il y a des noms que j'ai changés, d'autres pas. Mais c'est vrai que c'est une enfance et une adolescence à Dieppe, dans une ville qui n'a rien à voir avec le théâtre, enfin à l'époque, qui n'avait rien à voir, maintenant il y avait beaucoup plus de structures. Et comment... C'était improbable que j'arrive au théâtre en partant de là avec des parents qui n'y étaient pas du tout familiers à ça, quoi.
Oui, mais enfin, vous étiez quand même musicienne au départ.
Bah, je faisais du piano, et puis j'adorais jouer, mais j'adorais surtout, je suis un peu essoufflée parce que je sors de scène, j'aimais beaucoup la question de être soi ou faire semblant d'être soi. Déjà, être soi, c'est compliqué, mais alors faire semblant d'être soi, c'est quelque chose que j'ai ressenti très très tôt. faire semblant pour voir ce que ça fait quand on est comme ci, quand on est comme ça, quel est l'impact sur les gens et tout ça.
Oui, parce que c'est vrai que dans le titre « Faire semblant d'être moi », il y a déjà une ambivalence. Oui. Être moi, c'est bon, être soi-même, et faire semblant...
c'est encore plus compliqué, parce que c'est toujours c'est très velléitaire d'être soi. On n'est pas un soi, on est plusieurs soi. Alors en plus, faire semblant d'être plusieurs soi, mais je trouvais que c'était... D'abord, c'est une phrase que je dis, c'est la découverte de ce semblant-là qui pour elle est la vérité pure, et c'est ça qu'elle appelle le théâtre. C'est quand elle fait semblant qu'elle se sent le plus vrai, et c'est grâce au théâtre qu'elle peut montrer ça. C'est pas
ce qui est formidable dans cette pièce, dans ce seul en scène, faire semblant d'être moi, c'est qu'on voit vraiment toutes les périodes de la vie de cet enfant.
Oui.
Et des souvenirs, comme j'ai tout à l'heure, très marquants et qui nous parlent tellement. Oui. On se remémore notre enfance.
Tout à fait.
Souvenirs qu'on a parfois oubliés.
Exactement. Et en fait, moi, j'ai pas eu envie de faire quelque chose. Enfin, je pense pas que ce soit narcissique au sens j'ai envie de parler de moi, de moi, de moi. C'est pas ça. C'est qu'en fait, j'avais envie que les gens plongent dans leur intime et dans leur enfance. Pour moi, c'est capital parce que j'aime beaucoup, en fait, moi, la vie des gens, l'intime des gens. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Donc, voilà. Après, moi, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du spectacle en disant qui étaient émus juste parce que des choses leur étaient revenues. La même chose que j'ai vécu. On vit presque tous les... Enfin, pas les mêmes drames. Chacun a ses propres drames. Mais quand même, il y a quelque chose d'assez universel.
Oui, les vacances, la mère qui est dépressive, qui n'est pas contente le matin.
Voilà, qui n'est pas contente le matin, mais elle a un grand secret derrière et on ne sait pas trop ce que c'est. C'est très compliqué, alors que ça aurait été certainement beaucoup plus facile si on avait mis des mots dessus. Mais voilà, c'était comme ça, c'était dans les années 70. Voilà, c'était...
Et le frère, évidemment, avec cette complicité énorme avec son
frère. Et qui a des problèmes à la fin, quoi, bien sûr.
Oui. Ouais. Oui, et alors, vous le disiez, donc, on retrouve évidemment les années 70-80 avec certaines musiques, je pense à... C'est Hôtel California.
Hôtel California, bien sûr.
Oui. Et puis les communistes, Georges Marchais.
Ah bah oui, ça, c'est des petits marqueurs de temps. Il n'y en a pas tant que ça dans le spectacle, mais il y en a quelques-uns où tout de suite, on sait où on est, quoi.
Ouais. Alors, la mise en scène, donc, est effectuée par Xavier
Morel.
Xavier Morel. Assez sobre, hein, un piano, puisque vous êtes quand même musicienne à la base. Hein.
Mais c'est sobre, mais c'est fallait trouver. En fait, on a travaillé de manière très empirique dans une salle de répétition où il y avait un ballon et des chaises. Il n'y avait que ça. Donc on s'est dit, on va faire un ballon et des chaises. Et petit à petit, le ballon a pris plusieurs figures. C'est la petite sœur, après c'est le frère, après c'est toi, toi la copine. Et les chaises, Xavier, il a inventé vraiment toute une vie autour de ces chaises. C'est le grenier de la grand-mère. C'est le lit du frère, c'est l'estrade, la scène du théâtre quand je monte dessus. Donc c'est très ingénieux ce qu'il a trouvé.
Et on y est, c'est ça qui est incroyable.
Oui, on y est.
Avec trois chaises,
on est dans
le théâtre. Alors je ne sais plus si c'est au Havre ou à Dieppe que vous jouez, enfin dans cette salle, dans cette petite salle de spectacle.
C'est à Rouen.
À Rouen,
je crois.
Voilà.
Moi-même j'ai un doute, mais oui.
On y est.
Voilà, à Rouen. Tout à fait. Le premier spectacle, il est à Rouen.
On est dans la cuisine, on est en vacances, dans cette ferme, on est au lycée, on est à l'école, on y est. Et puis, il y a cette vidéo en fond qui donne quelque chose de
alors,
très
la
profond,
vidéo, elle est magnifique. Et on ne voulait pas une vidéo qui illustre, évidemment. On voulait une vidéo qui ouvre un petit peu, qui ouvre l'imaginaire. Enfin, donc, ces vues de mer et de route correspondent magnifiquement au spectacle. Et ça, c'est Véronique Kay qui a fait ça et qui est magnifique.
Oui, on citera à la fin toutes les personnes de l'équipe. D'accord. Du spectacle, la chorégraphe d'ailleurs, Caroline
Marcadet,
qui n'est pas des moindres, puisqu'elle a travaillé, je crois, avec Alain Françon
et
Vitesse dans les années 90.
Oui, voilà, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté, beaucoup aidé. En trois fois, on lui dit ce qu'on voudrait et tout de suite elle a l'imaginaire qui galope, qui marche à 100 à l'heure. Elle a tout de suite des idées et puis elle s'adapte vraiment à la personne en face, au corps de l'autre. C'est magnifique, ça a été magnifique de travailler ensemble.
Oui, il y a de la chorégraphie, hein,
oui,
dans
il y a
votre
de la chorégraphie,
hein.
Bien sûr. Tout ça est quand même, mine de rien, très chorégraphié. Et Caroline a fait un travail remarquable parce que moi, j'avais pas du tout confiance en moi à ce niveau-là.
Alors, une question, parce qu'on a bientôt terminé notre interview. Vous êtes plutôt TV, télé, cinéma, théâtre ?
Ah ben moi, je vais beaucoup théâtre. J'adore ça et j'adore le cinéma.
Et pour vous-même, quand vous jouez ?
Oui.
Avez-vous une préférence ?
Ah ! C'est,
c'est en tant que comédien.
Ça a vraiment, vraiment rien à voir. Le théâtre, c'est un gouffre. On se jette là-dedans, c'est une arène, et puis en même temps, on trouve le plaisir. Mais c'est une épopée. Même si ça dure qu'une heure et quart, c'est une aventure qu'on traverse. C'est énorme. Le théâtre, le cinéma, la télé, on refait. Bon, ça, je suis pas la première à le dire. Et du coup, puis ça engage le corps beaucoup plus quand même, le théâtre. Donc voilà. Mais le cinéma, c'est autre chose. Et puis moi, puis la série que je fais m'amuse beaucoup parce que j'ai un rôle qui où on m'écrit des choses assez drôles. Et une fois qu'on dit moteur, je sais plus quelle série c'est. Je joue comme si c'était un film au cinéma. Je m'amuse énormément et j'aime beaucoup. Ça demande autant de travail l'un et l'autre. Hein. Le théâtre demande un travail fou, mais la télé aussi, parce que ou le cinéma, si on connaît pas son texte, au bout des doigts et tout ça. Enfin, pour moi, on est à côté.
Oui, je rappelle, hein, vous jouez le rôle de Marie-Anne Delcourt dans la série sur TF1 Demain nous appartient. Vous avez joué également avec Roman Polanski, hein, J'accuse.
Un petit rôle dans J'accuse, mais j'ai quand même rencontré, c'était quelque chose.
Et puis au théâtre, beaucoup de rôles, notamment beaucoup je pense à votre fameux rôle dans le Tennessee Williams.
Oui, alors, c'était une pièce magnifique montée par Stéphane Braunschweig, c'était à l'Odéon et c'était soudain l'été dernier c'était extraordinaire. Je jouais Mrs. Venable et c'était formidable, j'ai adoré.
Et avec Catherine Anne également,
avec Peter Catherine Anne aussi, bien sûr, avec Philippe Mignana aussi, j'ai fait des textes, avec Jacques Nietzsche, mais là c'est mon premier texte et j'avoue que c'est encore autre chose, ça n'a encore rien à voir avec des textes.
Bravo, une nouvelle aventure.
C'est ça, et j'espère qu'elle
magnifique
va durer.
Texte j'espère sur l'enfance qui nous plonge complètement, qui nous submerge. Là je discutais à la sortie avec des spectateurs qui étaient vraiment émus.
Émus. Ah oui?
Oui.
Ça, c'est tant mieux, si ça aime.
Merci beaucoup, Lucien Mouchel. Je rappelle le titre de votre pièce, Faire semblant d'être moi. Et c'est donc au Théâtre de la Flèche dans le 11e, le samedi à 19h.
C'est ça.
Jusqu'au
15 mars.
Jusqu'au 15 mars, très bien.
Et là, c'est complet jusqu'au 22 février et il faut venir en mars.
Il faut venir en mars. Ouais. Donc, chers auditeurs, prenez vite vos places.
Voilà.
je suppose qu'en allant sur le site du
théâtre. Sur le site, c'est très simple.
La Flèche.
Il y a plusieurs tarifs et voilà, c'est très simple.
Petit théâtre La Flèche.
Charmant théâtre. Un décor, un écrin, c'est magnifique. Et la salle est très agréable. Il y a un rapport scène-salle qui est tout à fait digne des plus grands théâtres. C'est très agréable de jouer ici.
On recite peut-être toutes les personnes de votre équipe. Luce Mouchel, le metteur en scène.
Morel,
la chorégraphe.
Caroline Marcadet, la chorégraphe, Véronique Kay, la vidéaste, et puis Tom Bouchardon, qui a fait un magnifique travail, on n'en a pas parlé, mais de lumière, qui a vraiment, avec peu de moyens, qui a fait une vraie création lumière, qui est vraiment très très belle et qui élève le spectacle. Maïlan, notre régisseur, j'ai toujours peur d'oublier quelqu'un quand je fais ça, et puis La Flèche, merci à Flavie Fontaine, qui nous a accueillis et qui nous accueille de manière absolument magnifique. Et puis voilà, je crois que je pense avoir oublié personne. Et si, il y a quand même quelqu'un qui est très important, même s'il est plus dans l'ombre, c'est Pierre-Alain Chapuis, qui a été le collaborateur artistique, qui a eu un regard extrêmement averti et à la fois discret et essentiel, pour moi en tout cas.
Merci beaucoup, Luce Mouchel. Faire semblant d'être moi au théâtre La Flèche.
Voilà.
Au revoir, merci.
Merci à vous.
L'histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Ma vie, c'est pas...
IDFM Radio, 98 FM.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre C'est ma vie de Salvatore Adamo. Eh bien, l'émission se termine bientôt. Je voudrais vous faire part de mes coups de cœur pour les jours à venir. Alors, au Théâtre de la Scala, à Paris, des pivoines du Japon de Fabio Mara. C'est vraiment un spectacle à voir, ça dure 1h20, c'est le dimanche et lundi à 19h15. C'est un voyage étonnant qui explore toute une vie, voilà, qui pourrait être la nôtre, avec une écriture que je trouve très tendre et qui nous parle. En gros, c'est une rencontre un soir dans un restaurant et il y a toute une vie possible à deux. C'est un peu comme un rêve, le temps d'un dîner, le temps d'un baiser par-dessus la table. Et il faudra quand même, vous verrez que ces deux personnages, ce couple, face avec l'absence l'un de l'autre, faire avec un amour très bref. Alors, à nous d'imaginer, d'envisager la suite. Donc, c'est les pivoines du Japon au Théâtre de la Scala. Dimanche ou lundi à 19h15, il reste quelques places. Autre coup de cœur en cinéma, ce dimanche également d'ailleurs, le 23 à 16h30. Formidable film d'Arnaud Desplechin et c'est à Enghien, au CDA d'Enghien. Le film s'appelle « Spectateur » avec Mathieu Amalric et Dominique Pahini. Alors c'est justement sur le thème du cinéma. Qu'est-ce que c'est aller au cinéma? Pourquoi y allons-nous depuis plus de 100 ans? Donc Arnaud Desplechin voulait célébrer les salles, leur magie. Donc voilà, il a suivi le chemin d'un jeune homme, Paul, un peu comme un roman d'apprentissage d'un spectateur. Et il a mêlé des souvenirs, des fictions, des enquêtes, il y a plein d'images. C'est magnifique. Donc Spectateur, c'est dimanche 23 à 16h30, toujours au cinéma d'Enghien. Là on a un peu le temps, ce sera mercredi 5 mars à 20h au CDA d'Enghien dans le cycle Capra. You can't take it with you, film donc de Capra avec Jean Arthur et James Stewart. Côté musique, mon coup de cœur va à l'Orchestre National d'Île-de-France. Bon, là, programme classique, mais majestueux. Il reste quelques places à 17€, moitié prix, en téléphonant au 01 46 67 70 00. C'est à Courbevoie. L'Orchestre National d'Île-de-France le 7 mars à 20h45 au programme Les Noces de Figaro de Mozart et la symphonie numéro 8 de Beethoven et c'est à l'Espace Carpo de Courbevoie. Eh bien voilà, chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Vous retrouverez Marie-Laure vendredi prochain 28 février à 18h et quant à moi, je vous retrouve vendredi 7 mars à 18h. Très bonne soirée.